Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.
Vous connaissez cette rubrique à mes auditeurs, toujours avec M. Faustin Onozon. Rendez-vous pour vous donner l'information juste en ce qui concerne donc l'actualité économique et financière. Il espère en tout cas de ces questions. M. Faustin Onozon que nous recevons encore. Bonjour M. Faustin Onozon.
Bonjour M. Koumé.
M. Faustin Onozon, on se retrouve encore une fois dans le cadre de cette rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale pour parler d'un sujet qui, on peut le dire, est d'actualité. C'est de plus en plus ces questions de monnaie numérique ou électronique, c'est des choses qu'on constate de plus en plus. Alors ce phénomène, pour faire une petite historique, est né comment ces monnaies qualifiées de monnaies numériques ou électroniques?
Ce sont des monnaies qui sont nées il n'y a pas très longtemps. Il faut dire que la date de création de la monnaie électronique, c'est en 1995. Et celui qui a créé cette monnaie-là s'appelle David Chaum. Je ne sais pas si je prononce bien. Mm-hmm. Et c'est un cryptographeur.
Cryptographeur.
Voilà. Mm-hmm. Donc, c'est une monnaie qui ne date pas de très longtemps, mais qui est allée très vite dans les relations économiques et financières, aussi bien nationales qu'internationales.
Et c'est-à-dire qu'il y avait un besoin?
Non, à l'origine, c'était pour permettre à toute personne, surtout ceux qui n'ont pas accès au compte bancaire, mm-hmm. de disposer d'une monnaie électronique, mm-hmm. qui leur permettait d'ouvrir des comptes, mm-hmm. et sans passer par le biais d'une banque. Et cette monnaie leur permettait aussi de faire des transactions financières entre eux. C'est surtout ceux qui n'ont pas des pouvoirs d'achat très élevés et, comme je le disais tantôt, qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir véritablement un compte bancaire. Mmh. Mais aujourd'hui, ça commence à prendre une certaine importance.
Quand on fait référence à l'historique, on peut considérer ça un peu comme les antisystèmes du système financier traditionnel, on peut les appeler ainsi.
Ah oui, le système financier traditionnel, lui, c'est le système financier avec lequel nous vivons mmh. actuellement. C'est celui qui a permis de mettre sur pied les différents types de monnaie, à savoir la monnaie métallique, qu'on appelle les pièces de monnaie,
oui,
ou les monnaies divisionnaires, et la monnaie papier, qu'on appelle les billets, les deux réunis, c'est la monnaie fiduciaire, et puis la monnaie scripturale, c'est-à-dire les chèques et les virements. Mmh. Ça, c'est la finance traditionnelle.
La finance traditionnelle.
Voilà, aujourd'hui, à côté de cette finance-là, est en train de se développer, j'allais dire, une autre forme de finance qu'on pourrait qualifier de numérique ou électronique.
Mmh. Alors, de plus en plus, ça prend de l'ampleur. Hein. C'est rentré dans les habitudes, le transfert d'argent. C'est vrai que, in fine, après, on s'en va faire le retrait des monnaies fiduciaire. Ouais. Mais de plus en plus, ça rentre dans les habitudes. Et c'est-à-dire qu'à terme, il faut craindre pour le système traditionnel.
Ah oui, mais je crois que c'est possible. C'est pourquoi les banques centrales, d'ailleurs, ont pris certaines dispositions. Aujourd'hui, les banques centrales sont en train de créer ce qu'on appelle des e-monnaies mm-hmm. pour pouvoir contrôler les monnaies électroniques. Et vous avez donc la possibilité aujourd'hui d'ouvrir, pour les banques qui sont les plus avancées, et à partir d'une banque commerciale et qui est régie par une banque très avancée en matière de gestion de la monnaie électronique, vous avez la possibilité d'avoir un compte électronique ou un compte numérique.
Et donc, c'est rentré déjà dans les habitudes hein, de certaines banques. C'est ça l'anticipation. Hein. On veut continuer le système qui se met à niveau pour pouvoir, je vais dire, capter aussi cette manne financière, même si elle est électronique. Mais justement, la question qui me taraude l'esprit, une monnaie électronique, est-ce qu'on peut l'appeler de monnaie virtuelle? Si elle est virtuelle, est-ce qu'il y a des risques?
Oui, ça dépend. Il y a deux sortes de monnaies. J'allais dire électroniques. Il y a la monnaie virtuelle, celle qui relève de ce qu'on appelle les crypto-monnaies, où vous devez disposer d'un blockchain et à partir duquel vous pouvez avoir des clients qui viendraient vers votre système électronique. Et c'est en même temps vos clients. Et ceux-là ont la possibilité d'ouvrir des comptes, qu'on appelle des comptes virtuels. Ce ne sont pas des comptes qui sont régis par des banques centrales. Ce sont des comptes qu'on peut ouvrir à n'importe quel moment et avec tous ceux qui viendront certainement se loger au sein de ce blockchain-là. Mais à côté, ce que les banques centrales veulent ouvrir, c'est différent de ces comptes virtuels. Ouais, parce que le compte virtuel n'est surveillé par personne. Mais la banque centrale qui se propose de mettre l'accent sur une monnaie électronique, c'est une monnaie électronique qui sera surveillée de près. Voilà, c'est-à-dire on peut suivre, si vous voulez, la trajectoire de cette monnaie. Surtout que c'est une monnaie qui doit permettre de poursuivre d'une manière ou d'une autre les activités traditionnelles. C'est-à-dire qu'avec cette monnaie, on peut par exemple faire des transactions financières avec l'étranger. Au départ, au niveau des banques, on fait ces transactions. Mais vous connaissez une banque, il faut apporter tel ou tel document financier avant de faire la transaction. La transaction peut durer 1, 2, 3 jours, 1 semaine ou 2 semaines. Tout dépend de l'étendue des documents financiers qu'on vous demande. Voilà. Et au niveau des monnaies électroniques, il n'y a pas d'autorisation d'échange. Vous n'y levez rien. Vous faites la transaction et vous pouvez la faire au plan national directement et même au plan international entre vous et puis vos clients, par exemple, ou vos fournisseurs.
Alors, mais justement, vous avez expliqué hein, au début que les banques, disons, ont commencé, en tout cas les banques centrales ont commencé à se mettre à niveau. Sinon, le système, par exemple, des crypto-monnaies veut contourner le système, en tout cas. Mais pourquoi ? Quels sont les dangers si ces banques-là laissaient faire?
Oui, et vous savez que la monnaie est un phénomène qui est tout à fait complexe. La gestion de la manne monétaire en circulation obéit à plusieurs principes. Lorsque la gestion est tout à fait cohérente, lorsqu'elle est bien faite, au bout, on a une variation positive de la production nationale. Mais lorsque cette monnaie est traversée par des taux d'inflation avec une perte de pouvoir d'achat, il va sans dire que l'économie lui-même va perdre une bonne partie de son dynamisme. Et donc, contrôler la monnaie, c'est contrôler l'économie d'un pays, c'est contrôler la richesse aussi nationale. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a d'autres formes de monnaie aujourd'hui qu'on appelle des crypto-monnaies qui se développent. Mais ce n'est pas sans danger, ce n'est pas sans difficulté. Il y a aussi des fluctuations qui se font. Dans ce cadre-là, il y a beaucoup de pertes que les gens réalisent. S'ils réalisent beaucoup de gains, mais ils réalisent aussi beaucoup de pertes dans le cadre de la gestion de ces crypto-monnaies. Alors, il serait toujours bon pour les banques centrales de conserver la finance traditionnelle. À notre avis, c'est elle qui est beaucoup plus sûre.
Elle est sûre. Voilà. Vous parliez donc des monnaies fiduciaires. Hein. Quel est l'impact justement de cette monnaie fiduciaire-là dans le système pour nous présenter un peu l'état des lieux avant de commencer?
Oui, la monnaie fiduciaire, c'est celle qu'on utilise habituellement.
Oui, c'est justement.
Ce sont les pièces de monnaie et les billets de banque. C'est celle-là même qui permet de gérer au mieux la masse monétaire en circulation. Et lorsqu'on met l'accent sur un processus de création monétaire, c'est bien pour mettre en exergue tout ce qu'on appelle monnaie fiduciaire. Et cette monnaie fiduciaire créée doit toujours être en adéquation avec le niveau des réserves. Voilà, qui relève du solde monétaire négatif de la balance des paiements. Et donc, l'impact de cette monnaie sur la gestion de l'économie nationale est tout à fait effectif. Si on n'a pas de devise en tant que telle, on ne peut pas créer une monnaie fiduciaire qui soit très cohérente. Les deux vont de pair. L'autre garantit la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire permet aux banques de répondre à la demande des monnaies et des usagers.
À la demande des monnaies des usagers. Mais vous avez parlé du rôle des banques centrales justement dans la régulation de ce système-là. Et aujourd'hui, ces banques ont décidé de créer donc ces monnaies électroniques-là, les e-monnaies. Mais alors, ces deux systèmes qui sont juxtaposés à terme, est-ce qu'un système ne risque pas de, notamment le nouveau, ne risque pas donc de faire disparaître le système traditionnel qu'on connaît?
Non, je ne le pense pas. En fait, on a besoin des deux systèmes de gestion de la masse monétaire en circulation. Même si une est physique et l'autre est électronique, j'allais dire artificielle, toujours est-il que les deux aspects répondent toujours à la demande de monnaie. Voilà, et vous savez que cette demande de monnaie fait l'objet d'une programmation financière à la fin de chaque année. Et les billets de banque que vous voyez, les pièces de monnaie que vous voyez font l'objet d'une programmation. Il y a quelqu'un qui m'avait posé un jour la question de savoir, mais quand il y a une pénurie des pièces de monnaie, mais pourquoi est-ce que la banque centrale ne fabrique pas encore d'autres pièces de monnaie?
Justement, on a toujours eu cette idée. Voilà. Il faut fabriquer autant d'argent, tout le monde va en avoir.
Tout à fait. Mais je leur ai dit que ça fait l'objet d'une programmation. Et la monnaie qui est mise sur pied, la masse monétaire en circulation qui est mise sur pied dépend d'une équation. En économie, on dira que cette masse monétaire est fonction de la vitesse de circulation de la monnaie. Alors, si vous vous amusez à mettre sur pied une monnaie supplémentaire qui n'a pas été programmée, ça veut dire qu'il y aura plus de monnaie en circulation qu'on en a besoin. Et ça va créer encore d'autres difficultés.
Comme l'inflation.
Comme l'inflation, je ne vous le fais pas dire.
Justement.
Et c'est ce que j'avais répondu à cette personne qui voudrait en savoir un peu plus.
C'est-à-dire que les banques centrales, hein, comme dans tout pays, ont un rôle central dans la gestion de la circulation de cette monnaie-là.
Exactement.
C'est important.
Voilà. Et comme je le disais, pour être encore un peu plus précis, vous avez parlé de la cohabitation. Et cette cohabitation, j'ai dit qu'elle dépendra de la demande de monnaie. Et dorénavant, on va compter sur deux sortes de demandes de monnaie. Il y aura la demande de monnaie fiduciaire, puis la demande de monnaie électronique. Mais je pense que dans le cadre de la programmation, on aura affaire certainement à une seule demande de monnaie, quitte à nos structures de gestion de la masse monétaire en circulation, de voir dans quel cadre elles pourront faire leur programmation.
En tout cas, nous parlons de cette nouvelle monnaie, hein, qui n'est pas physique, la monnaie donc électronique, les e-monnaies. Les banques centrales, petit à petit, commencent à vulgariser ce type de monnaie. Ici, l'idée, c'est l'État ou des États qui décident de réguler la circulation de ces monnaies dites électroniques, c'est cela.
Effectivement, et puis il ne faut pas aussi oublier les avantages de ces monnaies électroniques. Ce sont des monnaies qui permettent d'accélérer les transactions. Et puis, elles sont un peu plus fiables. Là-bas, on ne parle pas des billets de banque erronés ou bien falsifiés. Et puis, ce sont des monnaies qui sont entièrement sécurisées. Et c'est une alternative, comme je le disais tantôt, à l'argent liquide. Alors que la monnaie scripturale, elle se traduit par une opération, ça je l'ai déjà dit, des transferts de fonds. On débute un compte ici, on crédite un compte de l'autre côté. Et tout ça, il y a le temps. Parce que les opérateurs économiques, il y a le temps qui joue dans les opérations, dans les transactions financières avec l'étranger. Or, l'autre avantage, c'est que automatiquement, vous pouvez faire votre transaction. Mais il y a quand même des risques. Il faut compter aussi avec le piratage des comptes. Et puis peut-être la perte des codes. On ne sait jamais.
On ne sait jamais. On va s'arrêter là, M. Fossé-Onozon. Nous reviendrons sur ces détails-là, des avantages de cette monnaie qui gagne petit à petit et des inconvénients aussi dans nos prochaines émissions pour permettre à nos auditeurs de mieux comprendre aussi qu'aujourd'hui, le système bouge et les banques centrales aussi ont décidé de bouger avec le système à travers donc, la création de ces e-monnaies qui sont des monnaies électroniques ou numériques. Petit à petit, les populations vont s'y habituer. Pour ceux qui savent déjà les transferts d'argent, c'est comme ça. Aujourd'hui, on va dans des supermarchés, on peut acheter sans avoir même le billet en main. On a, par exemple, dans notre portable de l'argent, on scanne et puis bon, on a payé. C'est cela. Merci à vous, M. Onozon.
Je vous en prie, M. Koumi.
On se retrouvera avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un autre numéro dans le cadre de cette rubrique gestion de l'économie nationale.
Tendance de la bourse.
Un autre numéro des tendances de la bourse avec notre consultant, M. Kouaoubris, qui est encore avec nous aujourd'hui. Kouaoubris, bonjour.
Bonjour, M. Koumi. Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, aujourd'hui, on va être un peu concret en disant à nos auditeurs, est-ce que les titres, actions, obligations, on en a parlé, peuvent nous donner de l'argent, de la ressource supplémentaire? On est travailleur ou bien on est entrepreneur? Est-ce qu'avoir ces titres-là sont des sources de revenus?
Oui, je réponds oui. Les dividendes, les intérêts sont des revenus que vous pouvez capter en investissant en bourse. Maintenant, il faut préciser que ces revenus sont un peu différents de ceux à quoi vous attendez. Les gens sont payés par mois, donc ils raisonnent généralement par mois. Ils s'attendent à un revenu mensuel. La bourse ne peut pas vous donner des revenus mensuels, sauf si vous pratiquez la spéculation, qui est une forme d'investissement en bourse, mais investissement court terme.
On va s'arrêter sur ce point-là. La spéculation, en quoi cela consiste?
Bon, sur les marchés financiers, il y a plusieurs postures, mais il y a deux grandes familles d'intervenants. Il y a ceux qui vont acheter le titre en vue de le revendre dans le délai le plus rapide, en anticipant une variation du prix de l'actif. Donc, je dis actif parce que ça peut être une action, le coût d'une matière première, un indice. En fait, il y a plein de produits financiers. Donc, quelqu'un qui prend une position sur un titre en vue de le revendre le plus rapidement possible en anticipant une variation du prix est en train de faire de la spéculation. Donc, lui, ce n'est pas l'actif qui l'intéresse, ce n'est pas la qualité du bien, ce n'est pas ce que ça peut rapporter. C'est le fait d'avoir vu que dans 3 semaines, dans 1 mois, le titre, son prix peut progresser ou peut baisser. Ça lui donne de l'argent.
Il faut avoir une certaine lecture aussi de ce paysage financier.
Voilà, c'est une connaissance de la psychologie du marché et l'outil qu'on utilise généralement, c'est l'analyse technique. Donc, c'est un genre d'analyse qui s'appuie sur l'étude des graphiques qui permet d'anticiper dans une certaine mesure le comportement des cours des titres. Donc, ceux-là, on les classe dans la catégorie des spéculateurs. Et eux, ils peuvent se dire, bon, je viens sur les marchés financiers, j'ai par exemple 2 millions, j'ai par exemple 5 millions de capital et je vais chercher à faire sur base de 5 millions du 10%, juste ça, du 10% par mois. Donc, quand tu raisonnes comme ça, tu peux effectivement seulement te dire, si je fais mes 10% par mois de 5 millions, ça me fait 500 000 francs chaque mois. Tu peux raisonner comme ça. Mais ce n'est pas de l'investissement en bourse au sens littéral. L'investissement en bourse, lui, il achète un actif dans le but de capter des revenus et de gagner dans la prise de valeur dans le temps. Donc, il peut accompagner une société pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, sans problème. Chaque année, tu reçois une partie des revenus de l'entreprise et ton titre prend de la valeur. Et l'action aura pris de la valeur progressivement pour atteindre 160 000 en décembre 2016. C'est ça l'investissement. Donc, c'est un peu deux styles qu'il faut différencier. Quand tu es un investisseur, tu vas capter des revenus sur l'année. Quand tu es un spéculateur, tu peux capter des gains sur le mois, mais le niveau de risque est très différent. Et pour avoir des gains subséquents, le niveau de capital aussi est différent.
Les auditeurs sûrement peuvent se poser la question, c'est vrai, avoir des titres, c'est intéressant, mais qu'est-ce que cela peut changer dans mon quotidien?
Après avoir balisé un peu les deux catégories, je vous dirais, moi je pratique l'investissement en bourse, je vous dirais honnêtement, pour mes enfants, en termes de scolarité, d'études supérieures. Aujourd'hui, vous savez que si vous devez prendre votre salaire pour couvrir tous vos besoins et les besoins de vos enfants et leurs études supérieures, c'est pas très évident. Donc s'il existe une activité qui peut vous permettre de capter des revenus pour neutraliser cette partie-là, je pense que ça peut être intéressant. Surtout qu'il ne s'agit pas de revenus additionnels qu'on vous demande de chercher. Il s'agit de votre épargne, la même épargne à laquelle vous pensez là. C'est d'elle il s'agit. Ça permet de capter en banque une certaine sécurité et en bourse une meilleure rentabilité. Donc nous avons dans l'école de la bourse des cas, j'en fais partie, de gens qui génèrent des dividendes suffisamment importants pour neutraliser toute scolarité d'enfants. Les témoignages sont disponibles sur le site de l'école de la bourse, rubrique cas pratique.
Voilà mes auditeurs, vous comprenez, hein, obtenir de la ressource additionnelle à vos revenus habituels. Vous êtes un salarié ou bien vous êtes un entrepreneur. La bourse est une occasion aussi à travers ces titres. Quand nous parlons des titres, hein, pour rafraîchir la mémoire, on parle d'obligations, on parle d'actions. Voilà, c'est une occasion aussi de couvrir les charges liées à votre statut de père ou de mère ou en tout cas de responsable de famille. Et voilà, c'est l'exemple donné. Allez, avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver encore la semaine prochaine avec M. Kouaobris. M. Kouaobris, merci à vous.
Merci M. Koumé, merci à tous les autres de nous suivre.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.